Le journal est présenté par Jérémy Pignard. Bonsoir.
Bonsoir. Il est accusé d'avoir tiré 6 coups de feu sur le conjoint de son ex-femme. 14 ans de prison ont été requis contre ce père de famille. Aujourd'hui, devant le tribunal de Moutier, le ministère public ne retient pas l'acte passionnel. Après les toits des usines, l'énergie solaire arrive aussi dans les montres jurassiennes. Norcom, société basée à Montfaucon, sort une collection qui fonctionne à l'énergie solaire ou sous une simple ampoule. 11,3 milliards de francs pour la coopération internationale, dont 1,5 milliard pour l'Ukraine. Le Conseil des États a adopté ce mercredi la stratégie 2025-2028 qui lie coopération et migration, ce qui ne plaît pas à la gauche. Après une journée pluvieuse, petite amélioration attendue demain jeudi, ciel changeant entre nuages et éclaircies qui prendront de l'ampleur. Avec quelques averses possibles sur les hauteurs, il ne fera pas plus de 13 degrés. 14 ans de prison, la très lourde peine requise ce matin à Moutier par le procureur envers un homme de 39 ans qui a tiré à 6 reprises sur le conjoint de son ex-compagne. Les faits remontent à novembre 2022 en France voisine. Tant le ministère public que les avocats des parties plaignantes ont insisté aujourd'hui devant le tribunal de Moutier sur la froideur de cet acte qui n'a miraculeusement pas fait de victime Olivier Zano.
Cette tentative de meurtre était-elle passionnelle? C'est la grande question qui déterminera le sort du prévenu. Un père séparé de ses enfants qui ont déménagé à l'étranger avec leur mère et son nouveau mari. Un déménagement que la famille recomposée a justifié notamment par la crainte de l'accusé avec qui les relations ont quasi toujours été conflictuelles. On lui reproche de ne jamais avoir rien fait pour voir ses enfants. Lui estime qu'on lui a volé sa fille et son fils. Pour le procureur, l'affaire est claire. Le prévenu se comporte comme une victime. Mais il n'a jamais fait le nécessaire. En se rendant en France avec une arme, il savait que les choses pouvaient mal tourner. Un de nos confrères du journal du Jura a assisté aux plaidoiries. Il relève les propos durs, très durs, des avocats de la victime et de l'ex-compagne du prévenu. Et ces derniers décrivent un homme manipulateur, égoïste et menaçant, un père loin d'être aimant qui nourrissait une haine grandissante pour le nouveau mari de son ex. Ses enfants ne voulaient plus le voir. Il se l'est vu répéter lors de cette dernière visite surprise en France. Visite pendant laquelle il en est venu aux mains avec le mari. C'est là qu'il est allé chercher son arme. C'est là qu'il a eu l'intention de tuer, a souligné le procureur. Pour lui, la tentative de meurtre passionnel doit être balayée de la main. L'avocat de la victime a aussi ressorti plusieurs messages envoyés par le prévenu peu de temps après les tirs. « J'ai fait ce que j'avais à faire, j'espère qu'il va crever », c'est ce qu'on pouvait y lire notamment.
Le ministère public s'en tient donc à la tentative de meurtre avec une peine de 14 ans de prison. Il reconnaît que la tentative d'assassinat pourrait être retenue également, ce qui pourrait aggraver la peine. L'avocate du prévenu tentera de défendre sa cause demain. Le jugement est attendu la semaine prochaine, le 18 septembre. Les canalisations de Moutier ne supportent visiblement plus la pression. Une nouvelle rupture de conduite est survenue cet après-midi vers 14h30 près de l'école secondaire. De nombreux habitants et l'hôpital ont été privés d'eau durant 45 minutes. Cette même canalisation avait déjà rompu en fin d'année dernière. Une fuite sûrement due à l'ancienneté des tuyaux. Mais les causes de la rupture sont encore à confirmer selon Raphaël Broquet. Il est chef du service des eaux de Moutier.
On n'a pas encore déterminé la cause parce que maintenant c'est sous du gravier et l'enrobé qui s'est éboulé par rapport à la pression de l'eau. On doit déterminer exactement la cause. C'est proche de ce qui s'était passé le 6 novembre passé. Et maintenant on doit définir réellement la cause du problème. Mais de base, de toute manière, c'est l'ancienneté de cette conduite qui fait qu'on a malheureusement des soucis de fuite. Des fuites, ça peut arriver partout dans tout notre réseau. Là, en l'occurrence, c'est deux fois en quelques mois. Donc, on doit justement tirer peut-être la sonnette d'alarme pour éviter ce problème. Surtout que, justement, c'est une conduite de transport et un gros diamètre, ce qui implique de gros dégâts quand il y a une fuite. Alors maintenant, il faut regarder exactement la longueur qu'il y a à faire. Il faut faire des demandes d'offres pour le creusage et le remplacement de cette conduite. Et puis demander le financement de ce tronçon pour qu'on puisse le faire assez rapidement.
Volensee, Concordat, Odanicht, à moins de 2 semaines du vote sur le Concordat le 22 septembre, une poignée de citoyens prévotois ont été surpris de recevoir du matériel de vote en allemand. Les informations sur ce document crucial qui règle le transfert de la ville de Moutier dans le canton du Jura apparaissent dans la langue de Goethe. La chancellerie municipale confirme avoir connaissance d'au moins une dizaine de cas. Le chancelier Christian Vaquin reconnaît une erreur.
L'erreur, elle provient de l'opération de la mission sous enveloppe. Hein. Apparemment, la mise sous enveloppe est confiée aux ateliers protégés et c'est à ce stade-là qu'il y a eu un problème.
À ce stade, qu'est-ce qui est mis en place par la commune pour corriger l'erreur ?
Alors écoutez, pour les personnes qui nous signalent la chose, on remplace au fur et à mesure le message. On a également fait figurer le message en français sur le site internet de la commune, de même que le lien avec sur le site du canton, hein, où le message est aussi disponible en français.
Des propos recueillis par Régis Méria. Et on parlera aussi en français, on vous rassure, de Moutier et du Concordat dans quelques minutes dans Pure Politique. Concordat qui régit le transfert donc de la ville et qui sera soumis au vote des populations bernoises et jurassiennes le 22 septembre. Fervent défenseur du nom, le député UDC Yves Gigon sera l'un des invités. Aux côtés du député du centre Bernard Studer et du conseiller municipal de Moutier Valentin Zuber. Pure Politique animée par Raphaël Chalvera, c'est à suivre en direct juste après le journal. L'horlogerie jurassienne se met au solaire, pas seulement sur les toits de ses usines, mais aussi dans ses montres. L'entreprise Norcom à Montfaucon lancera vendredi une nouvelle collection de montres qui fonctionne à la simple énergie solaire. Un principe qui permet à ce garde-temps d'être un peu plus éco-responsable. La technologie existait déjà au Japon, nous explique Jean-Jacques Merlet, il est directeur de l'entreprise Norcom.
Les Japonais ont déjà créé des mouvements comme ça il y a plusieurs années. Mais enfin, l'entreprise Ronda, en Suisse, a créé le premier module véritablement solaire où on a pu acheter les mouvements et les intégrer dans nos montres. La technologie particulière que nous avons dû développer, c'est un cadran qui est partiellement perméable pour permettre une partie de la lumière de passer et comme ça d'alimenter la cellule solaire. Ça peut être l'énergie du soleil directement, mais c'est aussi la lumière que vous avez au bureau. Ça veut dire que pour faire un jour de fonctionnement, c'est seulement 2 minutes au soleil. Donc ça veut dire qu'en la portant fréquemment, elle se recharge automatiquement sous toutes les formes de lumière, pas seulement la lumière solaire.
Elle ne tourne pas encore au solaire, mais la lanterne magique continue d'initier les enfants au cinéma et lance sa nouvelle saison aujourd'hui, saison à la saveur particulière, parce que son fondateur, Vincent Haddad, passe le témoin après avoir vu grandir son bébé durant plus de 30 ans. La lanterne magique est née à Neuchâtel en 1992. Elle compte désormais 80 clubs de cinéma pour les 6-12 ans en Suisse et une dizaine à l'international. Le défi majeur de ces 30 dernières années, ça a été de s'adapter à l'évolution du cinéma, confie Vincent Haddad.
Alors, la lanterne magique, elle a connu une révolution. C'était la révolution numérique. Quand on a commencé, c'était les grosses bobines qu'on devait envoyer par la poste dans toute la Suisse, voire même un petit peu plus loin. Maintenant, avec la dématérialisation et le numérique, c'est plus simple, c'est plus facile. Alors ça a été vraiment une grosse période d'adaptation parce que, en fait, tous les films n'ont pas été numérisés de façon régulière dès les années 2000. Donc, on a dû vraiment faire de la recherche, s'adapter, travailler parfois avec le Blu-ray, le DVD même. Mais aujourd'hui, ça s'est rentré dans l'ordre. Non, ce qui a beaucoup changé, c'est l'offre. Évidemment, il y a quelque part beaucoup plus de films, je dirais, destinés aux enfants. Donc, il faut savoir les sélectionner. Et donc, ça rend la mission de la lanterne magique encore plus précieuse. Et puis, les enfants, au niveau de la mentalité, ont un peu changé. Mais miracle, la salle obscure reste en fait sans doute un des derniers endroits au monde, on va dire j'exagère hein, à dessein, où un enfant arrive à se concentrer pendant 1 heure et demie, sans sortir, sans entracte, sans manger des pop-corn. Pourquoi ? Parce que ben voilà, le noir s'installe, l'écran, le app, et ça c'est la magie du cinéma.
Entretien complet avec Vincent Haddad à retrouver en vidéo sur rfj.ch. La 32e saison de La Lanterne Magique a commencé cet après-midi à Cinéma Joie à Port-en-Truy. Elle se poursuivra également à Moutier, au Noirmont, au Breleu et à Delémont. La Suisse mettra 11,3 milliards de francs dans la coopération internationale pour les 3 prochaines années. Budget approuvé ce mercredi par le Conseil des États. L'Ukraine est évidemment une des priorités. 1,5 milliard de francs y est consacré pour l'aide humanitaire et la reconstruction du pays. De manière générale, le Conseil des États a souhaité que la stratégie renforce le lien entre coopération et migration. C'est ce que défend le sénateur centriste Beat Rieder.
On va concentrer notre aide sur les pays qu'on a une migration forte en Suisse. C'est pour moi clair, c'est dans l'intérêt de la Suisse. On ne peut pas faire un arrosage à tous les pays qui ont des problèmes. Notre aide n'est pas faite pour ça. Notre aide est limitée. On a maintenant beaucoup de problèmes financiers dans la politique. Alors expliquez une fois, ici en Suisse, en Valais, qu'on va biffer des moyens dans le tourisme et en même temps, on subventionne des projets touristiques à Maroc. Et le même Maroc ne reprend pas ses citoyens de la Suisse qu'on doit refuser. C'est impossible, on doit réagir. Et je ne pense pas que le Conseil fédéral, comme il a dit, a encore 10 ans du temps. Non, c'est maintenant qu'on doit vraiment réagir.
Et la gauche s'est montrée très critique envers la stratégie de coopération. Elle a tenté en vain de gonfler le montant global de l'enveloppe et de créer un financement supplémentaire pour l'Ukraine. Et la gauche estime à l'inverse très problématique ce lien entre coopération et migration, à l'image du sénateur socialiste Carlos Omaruga.
L'aide au développement, pour la grande partie, ne s'adresse pas aux États eux-mêmes, mais s'adresse aux populations qui sont justement enclines à migrer s'il n'y a pas une amélioration des conditions cadres. On est là dans une contradiction, puisque finalement on va retirer l'appui aux populations de ces pays, au tissu économique de ce pays, parce que l'État ne fait pas correctement son travail international. C'est aussi finalement donner beaucoup de poids à des régimes qui sont autoritaires. Donc je regrette ce lien, ce d'autant plus que la préoccupation de la migration est déjà fortement intégrée dans les projets de coopération. C'est-à-dire on bouge en Suisse vers des projets qui permettent d'améliorer les conditions et éviter qu'il y ait migration. Mais sanctionner en disant on coupe les fonds, ça ne résout rien.
Et cette stratégie de coopération internationale doit encore être approuvée par le Conseil national. Le national, justement, qui a validé le budget de la culture à quelques exceptions près. La culture doit disposer d'une enveloppe de près d'1 milliard de francs pour son budget 2025. 2028. Il a par contre décidé de couper dans le budget de Pro Helvetia. Il a procédé à une ponction de 6,5 millions dans les activités à l'étranger de la Fondation, en raison notamment d'activités problématiques en Russie. Les chefs des diplomaties américaines et britanniques sont arrivés aujourd'hui en Ukraine pour discuter d'un allègement des règles concernant l'utilisation des armes occidentales contre la Russie. Moscou est par ailleurs accusé d'avoir acheté des missiles balistiques à l'Iran. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne cesse de réclamer aux Occidentaux des armes dotées d'une plus grande puissance de feu et moins de restrictions dans leur usage.
Vous écoutez RFJ, il est 18h12.
Sport. Des mesures prises à l'encontre des supporters du FC Bâle. Le secteur visiteur de Tourbillon sera fermé aux fans rennais lors du prochain match du FCB à Sion. Décision de la conférence des directeurs cantonaux de justice et police. Aucun billet ne sera par ailleurs vendu aux supporters balois. La sanction fait suite au débordement qu'il y a eu fin août dans la cité valaisanne en marge de la rencontre de Super League de football entre les deux équipes. Les Suissesses n'ont pas brillé lors du contre-la-montre des championnats d'Europe de cyclisme à Hasselt en l'absence de la tenante du titre Marlène Reusser. Les Suissesses Elena Hartmann et Noémie Rueg ont dû se contenter respectivement des 14e et 16e places. Le titre a été remporté par la Belge Lotte Kopecky devant son public.